Bonjour, vous êtes sur la radio du collège Arnaud Beltrame. Nous sommes fiers de vous présenter le résultat de notre projet autour de la web radio. En espérant que notre émission va vous plaire, nous vous souhaitons de passer un bon moment avec nous.
Pour commencer, Elora et Elina vont vous présenter leur article sur l'ennui chez les jeunes. Vous vous reconnaîtrez sans doute dans cet article.
Nous sommes Elina et Elora, vos présentatrices. Aujourd'hui, on parle de l'ennui des jeunes.
Nous avons choisi ce thème car les jeunes sont souvent sur les écrans et nous nous demandons si cela est bon pour eux.
Mais pourquoi les écrans sont mauvais pour les jeunes ?
Quand on utilise trop les écrans, on bouge moins et on peut prendre du poids et devenir obèse dans certains cas.
Nous pouvons aussi devenir addicts aux écrans car quand on est trop sur les écrans, on est enfermé dans sa chambre, souvent seul.
Quand on utilise les écrans, on utilise souvent aussi les réseaux sociaux et on peut se faire harceler comme sur Snapchat, Instagram ou encore WhatsApp.
Certains jeunes qui passent beaucoup de temps sur les écrans finissent parfois par croire que tout ce qu'ils voient sur les réseaux est réel et vrai. Les ados perdent ainsi leur esprit critique. De plus, les jeunes tombent parfois sur des images pornographiques, ce qui peut les choquer et les rendre accros.
Les images violentes de guerre, de combat, de mort peuvent aussi créer un choc chez les jeunes.
Toutes ces mauvaises conséquences nous font dire que les jeunes doivent trouver d'autres occupations que les écrans quand ils s'ennuient.
Nous sommes allés voir des jeunes du collège pour leur demander ce qu'ils font quand ils s'ennuient.
Je fais du téléphone et je dessine.
J'utilise mon téléphone.
Je joue à mon ordi.
De la console.
Ça dépend des saisons. Quand il fait bon, je sors. Sinon, pas grand-chose.
Je fais du foot ou je regarde le téléphone.
Je lis des webtoons. C'est un peu comme des BD où tu scrolls et tu peux les lire sur ton téléphone.
Je regarde les écrans ou je lis.
Je dessine, je me parle.
Mais que peut-on faire à la place d'utiliser les écrans ?
Vous pouvez par exemple faire vos devoirs,
faire du tri dans vos vêtements,
faire du tri dans votre chambre,
écouter de la musique,
redécorer votre chambre, faire des gâteaux,
dessiner ou peindre,
aller au parc avec vos amis ou votre famille, aller au cinéma,
refaire sa playlist. Pour finir, peut-être qu'on n'a pas toujours besoin de s'occuper quand on s'ennuie, parce que l'ennui peut être bon pour nous.
L'ennui est bon pour la santé, car il fait baisser le cortisol qui est l'hormone du stress.
Même si l'ennui nous paraît parfois pénible, il peut nous rendre moins stressés.
De plus, quand on s'ennuie, on peut travailler son imagination, par exemple, s'inventer des histoires, dessiner, peindre. Peut-être qu'en s'ennuyant, on devient un artiste.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Elora et Elina dans la chronique La vie des jeunes. À la prochaine.
Merci Elina et Elora d'avoir présenté votre article sur l'ennui des jeunes. Tout au long de notre émission, nous allons présenter des activités qui vous empêcheront, on l'espère, de vous ennuyer. D'abord, Adam va nous parler des avantages et des désavantages des jeux vidéo. N'oubliez pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, faites attention à ne pas passer trop de temps sur les écrans.
Salut, c'est Adam, bienvenue dans l'émission Gaming. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les jeux vidéo peuvent être bons ou mauvais pour la santé. Tout d'abord, je vais vous exposer certains des effets négatifs des jeux vidéo. Si on joue trop, on peut devenir accro, on peut passer toute la journée devant les écrans, donc on ne va plus dehors et on peut perdre ses copains. Cela peut aussi faire baisser les notes scolaires des jeunes parce qu'ils n'ont plus l'envie de faire leurs devoirs. Et parce que le collège, ça ne les intéresse plus. De plus, on peut prendre du poids parce que lorsqu'on joue aux jeux vidéo, on bouge peu. Lorsqu'on prend du poids, on peut être en moins bonne santé. En effet, être obèse donne plus de risques d'avoir des maladies cardiaques et d'avoir un cancer. Mais les jeux vidéo peuvent aussi être bons pour la santé. Dans certains jeux, il faut réagir très rapidement, ce qui travaille les réflexes. De plus, les jeux vidéo peuvent faire travailler la mémoire. En effet, on a parfois besoin de réfléchir aux actions qu'on a à réaliser avant pour gagner le jeu. Il faut aussi se souvenir des touches. pour pouvoir jouer. Enfin, les jeux vidéo peuvent nous permettre de penser à autre chose qu'à notre vie quotidienne. Pour terminer cette émission, je vais vous présenter mon jeu préféré. Il est interdit au moins de 12 ans, donc vérifiez que vous avez le bon âge avant d'y jouer. Ce jeu, c'est Fortnite. C'est un jeu de guerre dont le but est d'éliminer tous les autres joueurs pour se retrouver seul dans le jeu. C'est un jeu qui se joue en ligne. Attention, c'est un jeu violent. Et n'oubliez pas, ne jouez pas trop longtemps à Fortnite si vous ne voulez pas connaître les effets négatifs des jeux vidéo. Dans ce jeu, il faut construire des murs ou des escaliers. Par exemple, pour se protéger, pour construire, il faut récolter des matériaux. Cela nous fait travailler notre sens de l'organisation. En plus, il faut se souvenir des armes et savoir les dégâts qu'elles causent dans le jeu. Cela fait travailler notre mémoire. On peut aussi se faire des amis en jouant à Fortnite parce qu'on utilise un micro pour parler avec d'autres joueurs. Il faut cependant faire attention car il peut avoir des insultes entre joueurs. Gardez à l'esprit que Fortnite peut être dangereux pour vous. Amusez-vous bien, mais faites attention.
Merci Adam pour ton article. Pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, voilà une autre idée pour vous. Écoutez de la musique par exemple. Pour vous montrer pourquoi la musique est bonne pour vous, nous allons vous présenter ses bienfaits.
Bienvenue dans la rubrique « La musique des ados ». Nous allons vous présenter aujourd'hui les avantages de la musique. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer pourquoi chanter est bon pour la santé. Et dans un deuxième temps, nous allons interviewer Madame Guiz, professeure de musique au collège Arnaud Beltrame. Chanter est bon pour la santé car cela permet d'évacuer les émotions enfouies à l'intérieur de nous. Par exemple,
si on est stressé, ça permet d'être concentré dans le zen. Cela peut nous éviter de devenir anxieux et inquiet.
Quand on chante, on a 300 muscles en mouvement et cela permet de se calmer et de se sentir bien dans son corps. Nous allons interviewer Madame Guiz pour lui poser des questions sur la musique.
Bonjour Madame Guiz, pourquoi êtes-vous devenue prof de musique ?
Je suis devenue professeure de musique parce que d'un côté, j'étais passionnée de musique, j'en faisais énormément, du violoncelle, du piano, du chant lyrique, de la flûte à bec, de l'orchestre, de la chorale, du solfège, plus de 20 heures par semaine depuis le collège. Et puis, je ne pouvais pas m'en passer, donc lorsqu'il a fallu choisir une orientation après le lycée, j'ai hésité avec les lettres, mais pas très longtemps. D'un autre côté, j'aimais aussi beaucoup les enfants, leur spontanéité, leur enthousiasme, et puis j'ai toujours eu en tête de travailler avec eux, de leur apprendre des choses ou de les aider à grandir en développant leurs capacités artistiques.
Comment a été créée la chorale du collège ?
En fait, la chorale, c'est un enseignement comme les autres. C'est une option facultative que l'élève peut donc choisir ou non. Il est obligatoire aujourd'hui d'avoir une chorale au sein d'un collège et ça fait partie des missions du professeur de musique. Après, chaque professeur peut choisir la façon dont il veut enseigner le chant choral et puis les projets qu'il souhaite réaliser.
Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de prendre en charge la chorale ?
La chorale, c'est le moment que je préfère dans la semaine, en fait. C'est celui où je viens toujours avec plaisir parce que c'est toujours des moments de partage particuliers. J'aime, par exemple, préparer le projet avec mes collègues et puis avec mes choristes. J'aime toute la phase d'apprentissage avec les élèves. J'aime l'envie qu'ils ont de découvrir les nouveaux chants. J'aime les voir, j'aime les entendre aussi progresser et puis prendre confiance en eux. J'aime les voir s'exprimer par la musique, j'aime les voir tisser des liens avec les autres. Faire de la musique ensemble, ça permet ça. Ça permet aussi de tisser des liens. Mais ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est de les voir prendre du plaisir à chanter et à chanter ensemble.
Pouvez-vous nous expliquer les bienfaits de la musique, selon vous ?
Ce qui est sûr, c'est que les bienfaits de la musique sont nombreux, qu'on la produise ou qu'on la reçoive. Presque tout le monde y est sensible, puisque seulement 5% n'est pas réceptif. 5% de la population n'est pas réceptif à la musique. C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de vecteur, un vecteur d'émotion ou d'expression, ou même un régulateur d'humeur. D'ailleurs, la musique, ça permet la production de dopamine, c'est un neurotransmetteur du plaisir, et on l'a dit tout à l'heure, ça diminue le cortisol, l'hormone du stress. On peut danser sur de la musique, on peut chanter sur de la musique, on peut hurler sur de la musique, on peut pleurer sur de la musique, ou on peut sauter aussi sur de la musique. La musique, ça permet donc d'exprimer des émotions, mais ça permet aussi de ressentir des émotions et d'en susciter ou d'en provoquer. C'est aussi d'ailleurs une bonne compagne pour faire sortir ces émotions et puis apprendre à les gérer. Pour faire simple, que la musique est utilisée dans ce qu'on appelle la musicothérapie. La musique, ça aide aussi à la concentration, à la mémorisation, à la coordination, à la perception du temps. Donc ça améliore ce qu'on appelle les capacités cognitives. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres bienfaits dont je n'ai pas parlé, mais la musique, ça rend aussi plus créatif, ça développe l'imagination, le sens de l'écoute, et ça permet de partager beaucoup de choses avec l'autre, sans même avoir à passer par la parole. Donc d'une certaine façon, la musique, ça développe aussi la sociabilité.
Pour finir, nous vous proposons deux musiques qui nous font du bien et nous rendent en meilleure santé parce qu'elles nous rendent calmes et détendus.
La première, c'est Tatou de Lorraine. C'est une chanson qui date du 12 avril 2023 qui parle de l'amour. Je l'aime parce qu'elle me détend et j'aime beaucoup la voix de la chanteuse. Je vous propose d'en écouter un extrait. Bonne détente.
Quant à moi, je vais vous présenter la musique de Louane qui s'appelle Secret. J'aime beaucoup la voix de Louane car elle est douce et le piano est relaxant. C'est une chanson triste, elle date du 8 octobre 2022. Écoutons un extrait.
Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je veux te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que pas facile, mais moi je crois en toi.
C'était la chronique La musique des ados par Elora et Louane. À bientôt.
Merci les filles pour votre article autour de la musique. Merci également à Madame Guis d'avoir accepté de répondre à vos questions.
Pour ceux qui n'aiment ni les jeux vidéo ni la musique, nous vous proposons une autre idée, le sport. Enzo, Kylian et moi-même allons vous parler des bienfaits du sport pour les jeunes. Pour débuter cette chronique, expliquons pourquoi le sport est bon pour la santé et surtout pour les jeunes.
Il peut permettre de perdre du poids et d'améliorer notre masse musculaire.
Si on perd du poids, on peut être plus actif.
De plus, le surpoids et l'obésité peuvent entraîner des maladies comme les infections de la peau ou les maladies respiratoires.
Comme on a plus de poids à porter sur son corps, on est plus rapidement essoufflé et on a donc plus de mal à bouger.
Le sport peut améliorer notre santé mentale.
Quand on se donne dans une activité sportive, on oublie tous les tracas de la vie et ça permet de se changer les idées.
Quand on fait du sport, le cerveau produit de l'endorphine, l'hormone du plaisir, donc on se sent bien et on a plus d'énergie.
Personnellement, j'adore le sport et quand j'en fais, je me sens bien.
Nous pouvons améliorer notre confiance en soi parce que l'on se sent mieux dans notre corps et parce que on réussit des choses.
Quand on fait du sport, on dépense de l'énergie, donc on a un sommeil plus réparateur.
Or, le sommeil est très important pour que le cerveau se repose et qu'il retienne toutes les choses qu'on a apprises dans la journée.
Maintenant que nous avons fait nos recherches, allons à la rencontre de M. Pernès, prof de sport au collège, pour lui demander son avis.
Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas.
Bonjour, je m'appelle Christophe Pernet, je suis enseignant d'éducation physique et sportive au collège Beltrame.
Pourquoi êtes-vous devenu prof de sport ?
Je suis devenu prof de sport, j'ai eu envie de le faire depuis très très longtemps et j'avais envie de faire partager ma passion.
Quel est le sport que vous préférez enseigner ?
Ça c'est une question difficile parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressantes pour différentes raisons et à différents âges. Les sixièmes c'est pas la même chose. Qu'est-ce que je préfère ? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée précise. Les sports collectifs, certainement. Les sports de raquettes, la gymnastique aussi. La natation, c'est intéressant. Non, c'est très compliqué.
Comment êtes-vous devenu prof de sport ?
Mais comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai fait 3 ans d'études après le bac. J'ai eu une licence STAPS, sciences et techniques en activité physique et sportive. J'ai ensuite préparé un concours. Et une fois que j'ai eu le concours, j'ai fait une année de formation. Ce qui fait donc 5 ans après le baccalauréat.
Est-ce que vous pensez que le sport est bon pour les jeunes ?
Le sport n'est pas bon pour les jeunes, il est essentiel pour les jeunes. Ça développe l'intelligence, ça développe les capacités physiques, ça renforce les défenses immunitaires. Donc quelque chose qui est primordial et que tous les jeunes devraient pratiquer au moins 30 minutes par jour, voire plus.
Faites du sport, c'est bon pour la santé.
Nous vous attendons à l'UNSS tous les midis pour faire du sport ensemble.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous trois et merci à M. Pernès d'avoir répondu à vos questions.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu et que cela vous a sorti de votre ennui quotidien.
Au revoir et à la prochaine.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Radio Arnaud Beltrame pour parler de 3 sujets différents. La ville de Luçon, les voitures de collection et le beatbox. Commençons notre émission avec la chronique sur la ville de Luçon, avec Mélissa.
Aujourd'hui, on s'intéresse à la ville de Luçon et plus particulièrement aux lieux et aux activités qui peuvent intéresser les nouveaux habitants. En effet, avec l'implantation du nouveau collège Arnaud Beltrame à Luçon, un nombre important de personnel qui travaille dans le collège a choisi d'emménager sur Luçon pour être plus près de leur lieu de travail. Nous accueillons aujourd'hui une de nos journalistes, Keïna, spécialiste des informations locales. Bonjour Keïna.
Bonjour Mélissa, je me suis intéressée aux services et aux activités que propose la ville de Luçon pour les habitants. Je voulais savoir si les habitants se sentaient bien en cette ville. Pour cela, j'ai interrogé plus particulièrement les nouveaux habitants parmi le personnel du collège. Écoutons l'extrait de micro-trottoir pour mieux connaître ce que pensent les habitants de la ville de Luçon.
Pourquoi vous êtes-vous installé à Luçon ?
Alors, je me suis installé à Luçon pour le travail, pour me rapprocher du travail.
Alors, je me suis installé à Luçon parce que j'ai été muté à la rentrée ici au collège Beltrame.
Quel lieu préférez-vous pour vous divertir dans Luçon ?
J'aime beaucoup le cinéma, le bowling, j'aime aussi faire des marches et puis du shopping, le théâtre, etc. Il y a plein de choses à Luçon.
J'aaime beaucoup aller au jardin du Maine et au cinéma aussi.
Selon vous, que manque-t-il dans Luçon pour s'y sentir bien ?
Bah, je m'y sens déjà très bien, mais peut-être qu'il manque l'accès à la base de loisirs des Guiffettes. Ce serait bien que ça rouvre, en fait. Je trouve que ce serait sympa.
La mer. le bord de mer avec une plage.
Écoutons à nouveau Kainak qui a pu interroger un élu de la ville de Luçon.
Bonjour Monsieur Larieux, vous êtes professeur de physique chimie au collège Arnaud Beltrame et membre du conseil municipal de Luçon. Que met en place la ville de Luçon pour accueillir de nouveaux habitants ?
Alors la ville de Luçon, bah déjà, elle accueille les nouveaux habitants tous les ans en les regroupant et en faisant une réunion à la mairie. Donc le maire reçoit les nouveaux habitants et puis leur explique en fait voilà, ce qu'il y a à la ville de Luçon, son historique, et puis fait un petit peu le tour de toutes les infrastructures, les bâtiments qu'il y a dans la ville. Ensuite, il y a les services de la ville. Les services de la ville qui sont là pour aider les habitants à s'installer et puis à faire les démarches administratives, par exemple pour s'inscrire sur les listes électorales, pour pouvoir participer aux élections dans la ville, par exemple. S'ils ont besoin d'une nouvelle carte d'identité, eh bien, il y a un service pour ça aussi à la mairie. Et puis, à chaque fois qu'ils ont besoin d'une information, une demande, ils peuvent se tourner vers le forum des associations. Il y a justement un guichet qui est là pour répondre à toutes leurs questions. Par exemple, quel jour passent les ordures ménagères ? Ça, quand on arrive dans une ville, c'est important.
Selon la municipalité, quels sont les lieux qui sont les plus fréquentés pour les nouveaux habitants ?
Alors, les lieux fréquentés sur Luçon, il y en a quelques-uns quand même. Il y a le jardin du Maine à côté de l'hôtel de ville qui est très, très fréquenté par les Luçonnais, donc les nouveaux habitants aussi. Il y a le théâtre Milandi aussi. On a la chance d'avoir un théâtre municipal à Luçon. Donc, ce théâtre-là, il est bien utilisé par les Luçonnais et les nouveaux arrivants. Et puis, on peut citer aussi les Guifettes, parce que c'est un plan d'eau où on peut se balader et puis c'est assez agréable.
Merci Kaina. Grâce à ce micro-trottoir, nous pouvons voir que la ville de Luçon est bien adaptée aux nouveaux arrivants. Elle propose de multiples services, des commerces, des écoles, des lycées, des lieux pour se divertir et se cultiver. Le jardin du Maine, la cathédrale, le cinéma, la piscine, des restaurants et le campus pour les jeunes. Quand on emménage dans la ville de Luçon, les nouveaux habitants s'y sentent bien, une petite ville, mais qui propose beaucoup de services et d'activités. Kaina, peux-tu nous expliquer ce que veut dire le hashtag cœur qui a été installé cet été sur la place Richelieu devant la cathédrale ?
Le hashtag cœur Luçon a comme utilité d'être pris en photo pour les réseaux sociaux et que ça soit partagé par les nouveaux habitants. Cette décoration a une grande importance. Elle sert aussi d'animation. Le hashtag, c'est pour les réseaux sociaux et le cœur Luçon est dédié aux nouveaux habitants.
Merci Kaina. Ces nouveaux habitants peuvent participer aussi à des rassemblements à Luçon autour des voitures de collection. Cela peut permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Écoutons maintenant l'interview de Raphaël Parlou, notre journaliste spécialisé dans les sports mécaniques.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël, amateur de voitures de collection. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Pourquoi vous venez nous parler de voitures de collection ?
Parce que c'est ma passion et je veux la partager avec tout le monde. Je veux faire prendre conscience que plus tard, ces voitures ne rouleront plus sur nos routes.
Alors dites-moi, c'est quoi une voiture de collection ?
C'est une voiture ancienne qui a au moins 30 ans d'âge. Ce type de véhicule est apprécié pour sa valeur esthétique, sentimentale et historique.
Depuis quand vous intéressez-vous aux voitures de collection ?
Mon père est passionné d'anciennes automobiles. Il en a une dizaine et tout petit, il m'emmenait déjà en promenade à bord d'une voiture de collection.
Que fait-on quand on est passionné de voitures de collection ?
On se balade en groupe avec d'autres amateurs de voitures de collection et on partage ensemble le repas, les visites touristiques, par exemple la visite d'un musée de voitures.
Justement, Raphaël, y a-t-il des musées de voitures de collection en Vendée ?
Oui, il y en a un à Talmont-Saint-Hilaire. C'est une famille qui en est propriétaire. Elle récupère, restaure et entretient des autos, des deux roues et toutes sortes d'accessoires liés aux véhicules historiques pour le plaisir de la sauvegarde du patrimoine. Dans le musée, il y a plus de 150 véhicules.
Y a-t-il des événements particuliers en Vendée ?
Il y a des ventes aux enchères qui sont organisées un ou deux dimanches par mois. Il y a des rassemblements qui sont organisés, par exemple le rendez-vous des vieux rétro. Les propriétaires des voitures anciennes sont invités et un pique-nique est partagé sur le circuit.
Y a-t-il un club de voitures de collection à Luçon ?
Oui, il y en a un. Il s'appelle l'ASOM. Cela signifie Amicale Sud-Vendée des anciennes mécaniques.
Quelles activités propose le club ?
Le club organise un rassemblement le dernier dimanche de chaque mois de 10h à 12h sur le parking face à Weldom. Les personnes viennent pour échanger et partager les bonnes adresses pour trouver des pièces pour réparer les voitures. Il y a 4 sorties par an.
Quelles sont les voitures présentes ?
En majorité, ce sont des voitures populaires françaises des années 60-70.
Y a-t-il d'autres activités que des rassemblements ?
L'association a déjà organisé une bourse aux pièces automoto à Luçon pendant une foire exposition en août.
Merci Raphaël pour toutes ces informations sur les voitures de collection.
Au revoir et merci à vous.
À bord d'une voiture de collection, il arrive qu'on fasse du big box pour le plaisir de regarder le paysage et de rester concentré sur la route. Accueillons Calvin et Noah pour nous parler du beatbox.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis allée poser des questions au personnel et aux élèves du collège Arnaud Beltram sur le thème du beatbox. Écoutons ce que les adultes et les élèves ont répondu.
Pour vous, qu'est-ce que le beatbox ?
Des bruits de bouche.
Une passion.
C'est des gens qui chantent avec leur bouche, qui font des bruits. Enfin, qui chantent, non, mais qui font des bruits.
C'est des bruitages réalisés avec la bouche, avec un certain rythme.
Le beatbox, à mon avis, pour moi, c'est des sons de bouche.
Pouvez-vous nous faire une démonstration de beatbox ?
Non, je sais pas faire.
Ouais, je suis pas une professionnelle, donc...
On va essayer. Voilà.
Et maintenant, nous allons vous présenter un amateur de beatbox, Calvin.
Bonjour, je suis élève en 5e au collège Arnaud Beltram. Je pratique le beatbox depuis 5 ans, depuis le CE2. Je m'entraîne tout seul chez moi et j'essaie de trouver des nouveaux sons à faire.
Comment as-tu découvert le beatbox ?
J'ai toujours fait des bruits avec ma bouche, sans savoir que ça avait un nom. Ça m'a toujours aidé à me concentrer, c'est par hasard, sur les réseaux sociaux, que je suis tombée sur une vidéo où j'ai découvert que les bruits de bouche que je faisais, c'était du beatbox.
Combien d'heures par semaine t'entraînes-tu ?
Je m'entraîne environ 2 heures par semaine en faisant un peu tous les jours.
Pourquoi as-tu envie de faire découvrir le beatbox dans cette émission ?
Parce que j'ai envie de faire partager ma passion et aussi je veux montrer aux adolescents que c'est une occupation qu'on peut faire partout.
Qu'est-ce que c'est concrètement le beatbox ?
Le beatbox consiste à faire de la musique en imitant des instruments uniquement avec la bouche. Il y a des championnats et des battles partout dans le monde. La première battle a été organisée en 2009 en Suisse. Elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que le beatbox a commencé à se développer.
Connais-tu des beatboxers ?
Il y a des grands noms tels que DubFX, Amoon, Shaker, Razel, Swimbox et Robin Cavaille.
Y a-t-il des battles de beatbox en France ?
Oui, heureusement qu'il y en a en France. Il y a des participants qui viennent de la France entière pour venir jouer à Nantes.
Calvin, peux-tu nous faire une petite démonstration de beatbox ? Wow, super ! Merci Calvin ! C'était Noah, à bientôt pour une prochaine chronique.
C'est la fin de notre émission. Merci de votre attention et de votre écoute. Merci à nos journalistes. Nous nous retrouvons bientôt sur Radio Arnaud Beltram. Au revoir.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Beltram, la radio du collège Arnaud Beltram de Luçon en Vendée. Nous allons aujourd'hui vous présenter des sujets qui nous tiennent à cœur. Dans leur chronique « Un mois, une info », Elia et Inès vous ont choisi 2 informations qui les ont marquées ces derniers mois. Dans « La vie des profs », Kélia et Nathan ont réalisé l'interview d'un professeur de collège. Après une petite pause musicale et sans transition, dans sa chronique « Pêche et nature », Erwan recevra Melvin, grand amateur de pêche, pour une discussion passionnante. Enfin, la gastronomie sera à l'honneur avec Zoé et Charlie dans l'émission « Gastronomie à Beltram ». Sans plus tarder, laissons la place à Elia et Inès.
à tous, bienvenue dans notre chronique Un moins une info. Ici, on vous donne les informations qui nous ont marquées pendant les derniers mois. Je m'appelle Inès et voici Elia qui a choisi d'aborder avec vous le thème du harcèlement.
Bonjour à tous.
Quant à moi, j'ai décidé de vous parler de l'attentat d'Arras parce que c'est un événement qui m'a beaucoup choquée. Dans la matinée du vendredi 13 octobre, un homme s'est introduit dans l'enceinte de la cité scolaire Gambetta Carnot, à Arras, dans le Pas-de-Calais muni d'une arme blanche. Âgé de 20 ans, cet homme avait été élève au lycée Gambetta. Il était connu pour sa radicalisation et inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation. Ce matin-là, il a tué un professeur de lettres qui voulait l'empêcher d'entrer dans le lycée. Il s'appelait Dominique Bernard. L'assaillant a aussi blessé trois autres personnes, dont un enseignant. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les motivations de l'assaillant. On sait seulement qu'il haïssait la France et le système français et que cette haine s'est accélérée les derniers mois avant son passage à l'acte. L'attaque a eu lieu presque 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, un autre enseignant assassiné le 16 octobre 2020 dans le Val d'Oise, pour avoir montré des caricatures lors d'un cours d'éducation morale et civique sur la liberté d'expression. Je souhaite rendre hommage à ces deux enseignants, car il n'est pas normal que des enseignants meurent en faisant juste leur travail. Je vais laisser la place à Elia, qui va vous parler de harcèlement. Elia, pourquoi t'es-tu intéressée au harcèlement ?
C'est un sujet qui me touche beaucoup. On a tous près de nous quelqu'un qui est confronté au harcèlement et on doit en parler pour les protéger. Dans notre collège, par exemple, il y a 2 personnes dont je ne vais pas dire les noms. C'est très grave, elles se font insulter, taper dans la cour, mais elles disent toujours que tout va bien. Elles refusent de parler. C'est à nous, délégués, élèves, parents, de prévenir les adultes du collège de cette situation. Ou d'appeler le 3018, le numéro d'urgence contre le harcèlement ou le cyberharcèlement. D'ailleurs, la situation est tellement inquiétante au niveau national que le gouvernement a mis en place en 2021 le programme phare, un programme de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est un plan général de prévention et de traitement des situations de harcèlement qui a été généralisé en 2022. Dans chaque école, collège ou lycée, des adultes, professeurs, assistants d'éducation, CPE, personnel de direction sont formés au harcèlement et chargés de détecter les situations de harcèlement, de recueillir les témoignages, la parole des élèves, d'organiser des médiations ou d'assurer sur la durée le suivi des élèves confrontés aux situations de harcèlement. De vérifier que l'élève retrouve sa place au sein de l'établissement. Il n'y a pas de sanction, pas de punition. Dans notre collège, des affiches ont été collées, une boîte aux lettres a été posée devant l'infirmerie. Une adresse mail a été créée et on peut participer à un projet de création de court-métrage contre le harcèlement. Nos référents phares sont Madame Drono, Madame Guillet, Madame Durand, Madame Wagré, Madame Henrique, Monsieur Ray, Monsieur Caron et Monsieur Dolomini.
Elia, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la prévention ?
La prévention, c'est un ensemble de mesures que l'on prend pour prévenir d'un danger. On peut citer la prévention routière par exemple.
Quels sont les risques lorsque les gens ne parlent pas ?
Les risques sont grands. Ça peut aller du mal-être jusqu'au suicide, en passant par la dépression, le renfermement sur soi ou la mutilation. Il faut donc être vigilant et ne pas laisser une situation comme celle-ci s'installer.
Je te remercie Elia pour toutes ces informations. Au revoir chers auditeurs et bonne journée à vous.
Merci à Elia et Inès. Passons maintenant à la chronique suivante. Kélia et Nathan, c'est à vous pour la vie des profs.
Bonjour Milo, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La vie des profs. Je vous présente Kélia.
Bonjour, je vous présente Nathan.
Dans cette émission, nous nous intéressons à la vie des profs comme son nom l'indique. Nous interviewons plusieurs professeurs sur des sujets tels que leur parcours, leur motivation, leur réussite et leur échec. Monsieur Aubin, professeur de SECPA au collège Arnaud Beltrame de Luçon. Bonjour Monsieur Aubin.
Bonjour.
Vous êtes professeur en SECPA, mais la SECPA, qu'est-ce que c'est ?
Alors la SECPA, c'est une classe au collège qui est adaptée pour des élèves qui ont des difficultés. Donc de la 6e à la 3e, il y a 4 classes, 4 niveaux.
Pourriez-vous nous dire maintenant pourquoi vous avez choisi ce métier et depuis combien de temps vous le pratiquez ?
Alors, je le pratique ce métier de professeur en SECPA depuis 2006. Donc, ça fait à peu près 16-17 ans que je suis professeur des écoles en SECPA et je l'ai fait parce que j'avais envie de m'occuper d'élèves qui avaient des difficultés, tout simplement. Ça me tenait à cœur.
Quelles sont, d'après vous, les qualités requises pour enseigner ?
Pour enseigner avec des élèves en SECPA, je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience et aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ça demande beaucoup de travail en amont. Voilà, et puis je pense qu'il faut avoir de la bienveillance pour les élèves.
Repassons à des choses plus générales. Quel diplôme faut-il pour devenir professeur ?
Alors moi, quand j'ai passé mon concours de professeur des écoles, il fallait avoir une licence. Donc c'est 3 années après le baccalauréat, après la fin du lycée. Je pense qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Je crois qu'il faut 4 ou 5 années après le baccalauréat.
Est-ce que c'est difficile d'être professeur ?
Alors ça dépend ce que tu entends. Difficile, il y a certains jours, c'est difficile. Il y a certains jours, c'est fatigant, mais c'est aussi un métier qui est très riche où on rencontre plein de gens et plein d'élèves aussi qui nous marquent. Donc c'est un métier qui est quand même assez extraordinaire. Après, oui, il y a des jours qui sont un petit peu difficiles, mais comme tous les métiers, je pense.
Ce métier vous plaît-il autant que quand vous l'avez choisi ?
Toujours autant. Il y a des jours plus, je crois. Donc oui, j'ai pas du tout de regrets.
Merci Monsieur Aubin d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et vous souhaitons une bonne journée. Au revoir Monsieur Aubin.
Merci, au revoir.
Chers auditeurs, nous espérons également que cette interview vous aura plu. Au revoir et bonne journée à tous.
Après un sujet sur le harcèlement et une chronique sur la vie des profs, une musique m'est venue en tête. Derrière le brouillard, de grands corps malades, et Luan, sorti en 2020 sur son album Mesdames, et écoutez bien.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir. Dans l'orage, je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter. Même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer.
Vous êtes de retour sur Radio Beltram. Il est temps de passer à la chronique Pêche et Nature avec Erwan.
Bonjour Erwan.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Pêche et Nature. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pêche en eau douce et nous recevons Melvin, grand amateur de pêche. Bonjour Melvin et merci d'être présent. Melvin, tout d'abord, pourrais-tu expliquer à nos auditeurs ce qu'est la pêche nature ?
La pêche nature, c'est mélanger le plaisir de la pêche et de la nature. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la pêche plaisir.
Justement, pourquoi aimes-tu la pêche ?
J'aime l'attente avant que le poisson morde et les sensations particulières. Quand il attrape le leurre et que la lutte commence. Je pêche d'abord pour le combat. J'aime aussi parler avec les anciens et apprendre plein de choses comme des techniques ancestrales. Et puis j'aime aussi être seul dans ma bulle de nature.
Melvin, peux-tu nous dire comment ça se passe une session de pêche ?
Bien d'abord, il faut trouver un coin un peu isolé, sans trop de passage et évidemment avec du poisson. Je cherche souvent sur Google Maps mes nouveaux spots de pêche. Ensuite, il faut que j'installe le matériel.
Quel matériel ?
Canne à pêche, boîte de leurre, fil de pêche, épuisette, bourriche, une sorte de filet pour conserver les poissons. Piquet si on fait de la pêche au bouchon. Et ce n'est pas du matériel, mais il faut aussi beaucoup de patience.
Combien de temps dure chaque session de pêche ?
Environ 3 heures, mais ça peut durer plus longtemps.
Peux-tu nous détailler les différentes cannes à pêche et les différents appâts ?
Pour les cannes à pêche, vous pouvez trouver des cannes à coups, des cannes spinning et des castings.
La canne à coups, c'est une canne sans moulinet et c'est pour pêcher surtout des petits poissons. C'est une canne à pêche de loisir et on ne peut pas la lancer très loin. La spinning, c'est la canne de base de tous les pêcheurs, celle qui est la plus utilisée. Le moulinet est assez gros, elle est plus pratique pour les lancer et elle peut aller loin. La casting est une sorte de canne à pêche pour les gros poissons. On la lance dans les bordures de terre, dans les buissons et sous les arbres. Pour les appâts, maintenant, vous pouvez prendre des vers de terre, vers de farine, teigne, des leurres comme des imitations de petits poissons.
Et toi, Melvin, avec quelle canne pêches-tu le plus ?
Avec la spinning parce qu'elle lance loin.
Qu'est-ce que tu pêches comme poisson ?
Principalement des truites, des perches, des brochets.
Eh bien, merci Melvin d'avoir pris du temps pour nous présenter ta passion.
Merci à toi Erwan, bonne journée.
Trop sympa ce présentateur qui dit merci à tout. À moi de le remercier pour cette chronique. Et le meilleur pour la fin, parce que je commence vraiment à avoir faim. Gastronomie Beltrame, présentée par Zoé, qui reçoit aujourd'hui Charlie.
Allez, allez ! Bonjour à tous, vous êtes dans la chronique Gastronomie Beltrame. Aujourd'hui, nous recevons Charlie, un grand amateur de cuisine. Il vous réserve une belle recette. Bonjour Charlie.
Bonjour Zoé. Effectivement, je vais vous présenter la recette de l'anguille à la provençale. Le saviez-vous ? L'anguille est un produit vendéen.
Désolée, tu ne m'apprends rien. Passons donc à la recette. De quoi as-tu besoin pour cette recette ?
800 g d'anguille.
J'espère qu'elles sont bien mortes.
Non, elles sont juste endormies.
Ah, bon, nous allons enchaîner sur les ingrédients.
Pour construire cette recette, nous avons besoin de...
De parpaing, je suppose.
Mais enfin, Zoé, qu'est-ce que tu racontes ?
Désolée, j'avais encore la tête dans mes travaux du week-end.
Donc, je reprends. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'un oignon, d'une gousse d'ail, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 4 tomates, de quelques tiges de persil, un peu de poivre, de sel, ainsi que d'un bouquet garni, thym, persil, larieux... Non, pas monsieur larieux, mais du laurier. Enfin, 1 décilitre de vin blanc sec et 12 olives noires.
Tu n'oublies pas quelque chose ?
Oignon, ail, tomate... Ah si, mince, 80 grammes d'anguilles.
80 grammes ? Tu es sûr de toi, Charlie ?
Ah non, 800 grammes.
Allez, passons donc à l'action. Qu'allons-nous faire ?
Eh bien, nous allons assommer la bête, la décapiter, puis la dépecer et la vider.
Ah, beurre, ça a l'air dégoûtant.
Mais non, c'est juste un coup de main à prendre. La précision du geste, Zoé, la précision du geste. Je te montre. Réalisons cette recette de l'anguille à la provençale. Première étape, hacher l'oignon.
Mâcher l'oignon ?
Mais non, Zoé, hacher l'oignon. Puis détailler les tomates en petits dés, écraser l'ail, ciseler le persil. Deuxième étape, étuver doucement l'oignon à l'huile d'olive. Troisième étape, détailler l'anguille.
Oh oui, elle a de belles narines, des petits yeux tout mignons, des petites dents toutes pointues, des...
Zoé, ça suffit. Je disais détailler l'anguille en morceaux, bien penser à la vider, et réduire les morceaux dans les oignons. Quatrième étape, ajouter les dés de tomates, le bouquet garni et l'ail écrasé, et ensuite mouiller le tout avec le vin blanc.
Ben, je croyais qu'il était sec le vin blanc.
Cinquième étape, cuire doucement et surtout à couvert.
Oh attends Charlie, je vais chercher mon bonnet.
Non, arrêtons les gamineries. Je disais à couvert durant 25 à 30 minutes. Et enfin, bon appétit, au revoir.
Allez, allez. C'est sur cette chronique qui nous met l'eau à la bouche que nous achevons notre émission du jour. Un grand merci à tous pour votre écoute. Bonne journée et nous allons déguster ce plat concocté par Charlie.
Attends mon coco, t'as oublié un truc là, et très important. C'est quand même la première émission qu'on fait dans le collège Arnaud Beltrame, celle qui inaugure la web radio RAB et qui peut être entendue à plus de 40 km à la ronde. Si vous voulez réentendre cette émission ou celle de nos camarades du groupe PPR, cliquez donc sur le lien.